Vivante Église.
Vivante Église.
Vivante Église, une émission proposée par Éric Dupri.
Bienvenue sur Radio Présence à l'écoute de Vivante Église pour une émission qui va être consacrée au prix décerné la semaine dernière par la chaire Jean Rodin de l'Institut catholique de Toulouse. Ce prix récompense des étudiants engagés dans un projet de solidarité et donc dans le domaine du social. Pour en parler et présenter les initiatives qui ont été distinguées cette année, j'ai le plaisir d'accueillir Marie-Christine Monnoyer, professeure des universités et titulaire de la chaire Jean Rodin à l'ICT. À ses côtés, les deux lauréats du prix 2024, Pauline Bocquien, bénévole du CRAV, le Centre de Recherche et d'Anthropologie des Vocations, dont elle est en charge de la communication, et Julien Germain, président et cofondateur de l'association Emerga. Bonjour et bienvenue aussi à tous les trois. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Les projets distingués par la chaire Jean Rodin ont donc fait l'objet d'une remise de prix la semaine dernière, le 3 avril, à l'Institut catholique de Toulouse. Nous avons en studio les deux lauréats, mais nous avons également la titulaire de la chaire Jean Rodin. Et comme je ne pense pas que beaucoup de nos auditeurs connaissent la raison d'être et les activités de cette chaire, je vais d'abord demander à Marie-Christine Monnoyer de nous rappeler de quoi il retourne. Ça nous permettra aussi de comprendre pourquoi ce prix existe.
D'abord, bonjour. Et ensuite, rappelons pour tous ceux qui ne le savent pas encore que Jean Rodin est le fondateur du Secours catholique. On peut aussi rappeler qu'en même temps, il était prêtre. Ce qui est important pour nous, c'est que son action, qui a été si dynamique et si forte, aussi bien avant la Deuxième Guerre mondiale qu'après la Deuxième Guerre mondiale, je ne dis pas aussi pendant puisqu'il était sur le front, mais elle a été aussi forte et aussi efficace qu'après sa mort, certains se sont dit « il faut continuer à faire vivre les idées, les travaux, les objectifs de Jean Rodin ». C'est pour ça qu'il y a eu une fondation Jean Rodin qui existe toujours et dont le président est le père Descubes qui était avant archevêque de Rouen. Alors, cette fondation, elle aide la vie quotidienne de chacune des chaires qui sont à l'intérieur des instituts catholiques, des universités catholiques qui sont en France. Et toutes les chaires de Jean Rodin sont des chaires de recherche. Ce ne sont pas sur le terrain des gens d'action, mais ce sont des personnes, des chercheurs qui travaillent avec le terrain. Alors, en ce qui concerne la chaire toulousaine, c'est le parti pris très profond que nous avons adopté. Et à la chaire Jean Rodin, nous sommes des universitaires qui sont d'origine théorique différente. Il y a des juristes, il y a des économistes, il y a des théologiens, il y a des sociologues, etc. Et donc, nous essayons d'avoir des regards transversaux, des regards multiples et qui nous donnent des idées sur ce qui se passe et ce qui pourrait se passer. Alors, pourquoi cette idée du prix de la chaire Jean Rodin ? Eh bien, nous sommes au quotidien, quand on est dans une université, en contact avec des étudiants, ça paraît logique, mais aussi avec des étudiants qui s'engagent, bien entendu dans leurs études, mais qui s'engagent aussi sur le plan social, aussi sur le plan politique, aussi sur le plan humain. Ces engagements, nous avons pensé qu'il était intéressant de les mettre en valeur, en particulier quand ce sont des engagements solidaires. Alors, l'idée, c'est que s'engager, aujourd'hui, pour un jeune, ce n'est pas évident. Et en plus, s'engager aujourd'hui, c'est différent de s'engager hier. Hier, quand on s'engageait, quand papa était au Parti communiste, eh bien, on rentrait aux jeunesses communistes et après, on devenait membre du parti, on travaillait à la CGT, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. La jeune génération s'engage sur des idées, sur des thèmes qui l'émeuvent, qui l'intéressent, qu'ils ou elles ont envie de faire bouger. Alors, il nous a semblé que ceci était un point important parce que ça veut dire que s'engager, ça s'apprend. Peut-être que c'est le prof qui parle là. Mais c'est vrai que s'engager, ça s'apprend. Ça s'apprend parce que il faut, et vous avez déjà dit, nous avons en face de nous, un président et une chargée de communication. Ça veut dire qu'il faut apprendre à être président. Ça veut dire qu'il faut apprendre à faire de la communication. Or, quand on est en fac de droit, quand on est en fac de lettres, on n'apprend pas forcément à faire de la com ou à être président. Aujourd'hui, c'est un peu ce qu'on appelle les soft skills, c'est-à-dire ce que l'on apprend ailleurs, en transversal, autrement. Donc notre idée dans la création de ce prix, elle est double. Elle est de mettre en valeur des jeunes qui se sont engagés pour qu'ils comprennent que cet engagement, ils ont commencé à le mettre en pratique. Que deviendra-t-il dans cet engagement-là ou dans d'autres dans le futur ? C'est à eux de décider.
Ce prix a aussi été créé donc non seulement par la chaire Rodin, mais aussi en collaboration avec le service Engagement solidaire de l'Institut catholique. Qu'est-ce que c'est que ce service ?
Alors, c'est un service qui est important dans l'idée, qui n'est pas équipé de nombreuses personnes, puisqu'en fait, il y a une personne et qui ne travaille pas du tout à temps plein, mais qui a pour fonction d'accompagner tous les projets d'engagement solidaire, parce que ces projets-là, ils peuvent être pris dans le cadre d'un mémoire, ils peuvent être pris dans le cadre d'un stage, ils peuvent être pris dans le cadre d'un engagement personnel. En particulier quand c'est dans un stage, le besoin d'accompagnement, il est évident. Quand il est hors des frontières nationales, il est fondamentalement nécessaire, parce que c'est encore plus compliqué. Donc, le service de l'engagement solidaire, il a cette fonction-là d'accompagnement des jeunes qui ont choisi, à un moment de leurs études, de s'engager.
Qui peut candidater au prix et quels sont les critères de sélection du jury ? Parce que, évidemment, il y a un certain cahier des charges à remplir et il est assez fourni concernant ce prix.
Il est fourni parce qu'on veut d'abord que ce soit un engagement solidaire. Et donc, cette solidarité, elle doit se manifester par les objectifs de l'association dans laquelle elle s'engage. Il y a aussi un point qui me paraît très important, c'est que les étudiants qui s'engagent, qui candidatent pour ce prix, savent ou doivent savoir à cette occasion que le prix monétaire, qui est évidemment très faible parce qu'on n'a pas un budget considérable, il ne sera pas versé à eux. Il sera versé à l'association dans laquelle ils se sont engagés. C'est-à-dire qu'au fond, on est dans un objectif de solidarité au moment de l'action et de post-solidarité après la remise du prix. Cet engagement, il doit être dans une association qui doit avoir une pérennité. Il ne s'agit pas de faire juste un coup de com'. Et il peut être extrêmement petit. On ne cherche pas forcément à promouvoir une association hyper connue. Non, c'est pas ça. Et ça, ça nous vient de Jean Rodin. Jean Rodin disait, il n'y a pas de petits projets. Il y a des projets qui sans doute vont grandir. On a tous commencé petit. Les projets des étudiants peuvent être de cette nature. Et c'est pour ça aussi que j'insistais tout à l'heure sur le fait que c'est l'occasion d'apprendre, c'est l'occasion de se mélanger, c'est l'occasion d'être très souvent d'abord en intergénérationnel. C'est aussi l'occasion d'être en international, c'est aussi l'occasion d'être en intersocial. Et donc, tout ça, ça doit transparaître dans l'objectif poursuivi par l'étudiant qui candidate.
Alors, vous l'avez dit, le prix, c'est quelques centaines d'euros, hein, sans donner les chiffres précis, peu importe. Donc, ce n'est pas la première motivation pour ceux qui sont distingués. En revanche, est-ce que ça ne leur ouvre pas certaines portes, et notamment un réseau relationnel ? Est-ce que ça ne crée pas de la mise en relation qui, évidemment, est très importante pour un projet qui démarre ?
Alors, fondamentalement, c'est ce que j'espère. C'est ce que j'espère parce qu'il y a, dans toutes ces, parce que comme ce sont souvent des jeunes associations, eh bien, la question de la pérennité se pose. Et donc, le réseau qui va naître de la distinction peut favoriser aussi la vie de l'association. Alors, elle favorise sans doute l'étudiant, parce que ça se met sur un CV, et que c'est mieux que de dire qu'on fait de la boxe thaï le samedi matin. Enfin, c'est très bien la boxe thaï, hein, mais bon.
Peut se mettre sur un CV.
Ça peut aussi se mettre sur un CV, mais ça montre qu'il y a un regard sur le long terme. Et c'est ça aussi qui est important. Ce regard sur le long terme, on le met en évidence, et au fond, pour tous ceux qui vont travailler, œuvrer, participer avec ceux qui ont été primés aujourd'hui, eh bien, ça veut dire que ce ne sont pas des court-termistes. Or, nous, on a besoin de long-termistes.
De gens qui s'inscrivent dans la durée. Qui dit prix, dit jury.
Absolument.
Qui étaient les membres du jury?
Alors, les membres du jury sont des membres de la chaire Jean Rodin. À la chaire Jean Rodin à Toulouse, nous sommes une douzaine. On est dans l'intergénérationnel, on est dans l'interdiscipline. Et donc, on avait choisi, pour ce prix-là, un juriste. On avait choisi quelqu'un qui a une double spécialité, puisque Jean-Marie Fehrenbach est à la fois polytechnicien, super-héros, etc., mais bibliste, et qu'il parle l'hébreu comme moi je parle le français, ce qui est quand même pas si fréquent que ça. Et puis, une autre des membres qui s'appelle Aude Bernard Rougeau de Boubé, qui est maître de conférence à la Cato, qui est juriste privatiste, et qui est une des jeunes de notre équipe, qui d'ailleurs l'a très bien montré, puisque c'est elle qui a remis le prix le 3 avril.
Alors c'était la quatrième édition, je
oui.
crois, de ce prix. Est-ce que vous faites tourner le jury chaque année, ou est-ce que ça peut être les mêmes personnes?
Non, on fait tourner le jury chaque année, d'abord parce que tout le monde n'est pas forcément disponible,
et
puis parce
oui.
qu'il est intéressant justement d'avoir des regards différents. Pour nous, à la chaire Jean Rodin, c'est quelque chose de très important d'avoir des regards différents, d'avoir des expériences de vie différentes. Et c'est aussi pour ça qu'on favorise l'intergénérationnel, qui était très marqué cette année, avec la présence de Jean-Yves Perouin et de Jean-Marie Fehrenbach.
Combien vous avez reçu de dossiers de candidature en 2024 et comment vous avez fait après pour faire votre sélection? C'est des discussions entre vous ou alors c'est vraiment, vous regardez critère par critère, comment ils sont remplis, si on peut dire, par rapport à ce que vous attendez?
Alors, les jeunes nous ont présenté un dossier écrit, bien sûr transmis en numérique, un dossier écrit dans lequel ils présentaient leur association. Et puis, nous avons choisi le jury et ils ont été auditionnés. Hein. Chacun, l'un après l'autre, comme dans une audition classique, nous avions le temps de les écouter. Moi, j'en ai écouté certains, même si je ne faisais pas complètement partie du jury. Mais les trois membres du jury ont écouté tout le monde, et ce, pendant toute une matinée, etc. Nous n'avons reçu que 5 dossiers complet le jour J, et voilà.
Il faut que ce soit des dossiers très étoffés?
Non, il ne faut pas que ce soit des dossiers très étoffés, il faut qu'ils soient suffisamment précis pour donner la possibilité ensuite au jury de questionner d'une façon précise. Et tous les dossiers ont été lus par les membres du jury pendant la semaine précédente, et ils sont arrivés, et je peux même vous dire, qu'ils avaient des idées avant, et que l'audition a changé la liste des lauréats parce que la rencontre avec a permis de faire passer d'autres choses que celles qui passaient à travers l'écrit.
Mais je pense que c'est notamment là qu'on voit ce qu'est réellement la force de l'engagement de chacun d'entre eux dans leur projet.
Exactement.
Et l'énergie qu'ils mettent à le défendre et à quel point ils y croient.
Voilà.
Alors, avant qu'on présente vos projets à l'une et à l'autre, je voulais savoir comment vous aviez eu vent de l'existence de ce prix.
Eh bien, personnellement, j'ai eu vent...
Pour Pauline, d'abord, Bocquien.
De l'existence de ce prix par l'ICT, qui nous a proposé par mail de participer, chaque étudiant, ceux qui voulaient, de participer à ce prix.
Et vous, Julien Germain?
Bonjour à toutes et à tous. Alors, à titre personnel, je ne suis plus étudiant de l'Institut catholique. J'y ai passé 3 années de licence en droit. Et par chance, le prix était également ouvert aux engagements qui ont été accomplis sur les 3 années qui précèdent 2024. Et donc, en réalité, notre projet correspondait tout à fait à cette condition. Et c'est le service engagement solidaire de l'ICT qui nous en a fait part, qui nous a suggéré ce prix. Alors, on a une petite spécificité, c'est qu'on a candidaté au nom d'un collectif d'étudiants. On est 6 à être aujourd'hui toujours actifs dans la vie de cette association et avoir donc candidaté. Donc, ça n'est pas une personne isolée qui a candidaté, c'est véritablement un collectif d'étudiants, d'anciens étudiants pour certains, qui a candidaté au prix.
Est-ce que ça demandait un travail important, de, ne serait-ce que de constituer le dossier, de savoir ce qu'on allait mettre dedans pour convaincre le jury, Pauline?
Exactement, oui, ça a demandé un travail dans le sens où nous avons dû mettre par écrit tout ce que l'on ressent et tout ce que l'on a envie de faire passer pour avoir comme but de convaincre le jury et de leur montrer que notre engagement vaut le coup.
Et vous êtes assez dans les associations auxquelles vous appartenez pour faire ce travail-là, ou c'est quelque chose que vous avez fait très personnellement l'un et l'autre pour chacun des projets?
Alors je l'ai fait très personnellement, je l'ai fait relire, mais les idées principales sont venues de moi.
Et vous, Julien?
Et concernant notre association, on a la chance d'être 6 dans ce collectif, donc à nous 6, on a pu se relire, on a pu s'entraider. Mais je dirais que c'est une démarche assez personnelle finalement, puisque On parle avant tout d'un engagement et pas nécessairement d'un projet. Effectivement, il y a l'idée d'une rencontre aussi, quelque chose d'humain derrière. Et donc pour ce faire, il y a que l'humain qui parle et on ne va pas réutiliser des éléments de langage qu'on a déjà conçus avant. On a vraiment, je pense, en complétant ce dossier, laissé parler justement l'humain qui a derrière l'engagement.
Alors c'est intéressant parce que vous, votre association, vous avez utilisé le terme, c'est un collectif. Et apparemment, vous jouez vraiment collectif.
Oui, effectivement. Dans notre association, nous sommes, si je ne dis pas de bêtises, 76 bénévoles à travers la France. On travaille tous à distance, hein, en télébénévolat, et avec ce champ d'action très particulier qui est le secours à personne. En fait, on est une association de secourisme, véritablement, puisqu'en France, on est malheureusement assez mauvais élèves, c'est-à-dire qu'il y a très peu de Français formés aux gestes qui sauvent. On a beaucoup de mal à voir des chiffres, mais on estime qu'il y a 10% de la population qui a de solides maîtrises du secourisme. C'est très peu. Ça a des conséquences sur le terrain qui peuvent être parfois très négatives. Et on est en plus dans un contexte où notre chaîne de l'urgence en France est très complexe. Par exemple, en France, il y a 12 numéros d'urgence. 12 numéros, c'est énorme. Donc forcément, le grand public, toute personne qui est confrontée à une urgence, va très vite se trouver démunie.
Ça veut dire qu'il y a 12 numéros d'urgence selon le type d'urgence concerné.
Exactement.
Il
n'y
a pas
selon
un numéro générique
non.
Où on appelle et on va être redirigé suivant...
Vous serez redirigé, mais en réalité, ça occasionne aussi une petite perte de temps du côté du service que vous contactez. Donc non, effectivement, il y a cette multiplicité de numéros qui est difficile. Donc nous, on est dans ce contexte et effectivement, à l'origine, on était 3. Aujourd'hui, on a un petit peu augmenté en termes d'effectifs. Et on a eu envie d'agir justement pour apporter une solution à cette difficulté. Alors, on ne va pas sensibiliser la France entière aux gestes de premier secours, ça paraît compliqué, mais on peut y concourir. Et on a eu envie d'apporter notre concours au travers du biais de l'innovation, et donc en développant des outils innovants, des outils numériques, justement, pour aider à sensibiliser.
Très bien, vous avez déjà un petit peu ébauché la suite de notre conversation. On va rentrer dans le détail de vos projets respectifs dans quelques instants, dans quelques minutes même. Pour l'instant, on va écouter un peu de musique et on va le faire avec une chanson de Laurent Voulzy dont le titre est « Jeanne ».
Des siècles nous séparent et mon cœur s'égare. Un amour subtil l'a pris et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Jeanne, j'aurais aimé vous plaire. J'espère de venir un soir à vos genoux. Vous n'êtes qu'une image perdue dans les âges et moi dans l'amour de vous. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime, l'âme pleine de mélancolie. Et je chante ma peine loin de celle que j'aime. Pleine de mélancolie.
présence. Vivante Église, Éric Dupri.
Nous sommes de retour à l'antenne et je suis toujours en compagnie de Marie-Christine Monnoyer, titulaire de la chaire Jean Rodin de l'Institut catholique de Toulouse, et de Pauline Bauquin et Julien Germain, les deux lauréats du prix décerné le 3 avril par le jury de la chaire Jean Rodin. Ils vont maintenant pouvoir nous présenter un peu plus en détail les projets pour lesquels ils ont été récompensés. Nous allons commencer avec Pauline. Vous présentiez, vous représentiez le CRAV, donc le Centre de Recherche et d'Anthropologie des Vocations. Ça, c'est un intitulé qui impressionne, mais qu'est-ce qu'il y a derrière en fait ?
Alors, le CRAV est une association qui a pour but de promouvoir la beauté, la nécessité et la complémentarité des trois états de vie dans l'Église, donc que sont la vie consacrée, le mariage et le sacerdoce. Et nous avons commencé l'association en 2022 par un symposium qui avait lieu à Rome, un symposium international, qui avait comme thème le sacerdoce. Et ce symposium a été ouvert par le pape François, qui donc nous soutient moralement. Et nous avons eu la chance de pouvoir organiser un deuxième symposium en mars dernier, qui avait pour thème « Hommes et femmes à l'image de Dieu pour une anthropologie des vocations ».
Et qui a créé le CRAV ? Ce sont des étudiants ? Ce sont des gens engagés dans la vie chrétienne ? Ce sont des prêtres ?
Alors le CRAV a été créé par le cardinal Mark Ouellet, qui est un cardinal canadien, pour le symposium de 2022.
Et donc c'est une organisation internationale ?
Exactement.
Et vous avez quand même des relais en France, des lieux, des locaux, ou c'est uniquement des gens, il n'y a pas de siège ?
Alors effectivement, nous n'avons pas encore de locaux, de sièges vraiment, ni en France ni ailleurs. Nous sommes donc une association internationale puisque le président est donc le cardinal. Et ensuite, dans le CRAV, nous avons un comité scientifique qui est composé de 11 membres internationaux venant de plusieurs états différents. Et ce que nous organisons à chaque fois est traduit en plusieurs langues. Donc à la suite du premier symposium, nous avons sorti des actes, donc des livres qui peuvent expliquer le symposium et retranscrire par écrit le symposium, qui ont été traduits en 6 langues et vendus en plus de 2000 exemplaires.
Pourquoi vous avez rejoint le CRAV, vous, personnellement, et quel rôle vous y jouez ?
Alors, je suis actuellement dans le CRAV en tant que chargée de communication bénévole et je l'ai rejoint parce que j'ai trouvé que l'ambition de cette association m'importait beaucoup et que ça me parlait, et j'ai senti l'importance de cette association puisque aujourd'hui, quand nous parlons de vocation, nous avons souvent comme première impression que l'on parle plus de la vie consacrée, donc les religieux, religieuses, ou du sacerdoce, alors que le mariage est une vocation à part entière aussi, et que les trois sont très liés et très importantes au sein de l'Église.
Ça, c'est vraiment l'originalité, je trouve, du projet.
Exactement, oui.
Le mariage comme sacerdoce. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Marie-Christine Monnoyer ?
Moi qui suis mariée depuis 53 ans, je considère effectivement que c'est un sacerdoce.
Donc ça vous a parlé tout de suite ?
Tout de suite.
Vous. Et pourquoi ce projet a été distingué par le jury ? Donc il y en avait 5 autres. Donc vous avez eu le deuxième prix, hein, je ne dis pas
exactement,
de bêtises.
Exactement, c'est ça.
Deuxième prix.
Mais justement, on a trouvé qu'il y avait une originalité extrêmement grande dans cette idée, et que le fait de mettre en exergue à la fois la vie consacrée et le mariage, c'était aussi donner une importance considérable aux laïcs. Et ce point-là, en ce qui me concerne, était très important.
Ça, c'est quelque chose de très nouveau.
Oui,
c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans d'autres associations de ce genre.
Il me semble que c'est aussi important de montrer que l'engagement dans la vie conjugale est un engagement par définition sur le long terme. Théoriquement, c'est ainsi. Comme tous les engagements, il est difficile à tenir. Et il me semblait que le comparer par rapport à l'engagement du sacerdoce consacré, c'était le moyen, enfin, prêtre, prophète et roi. Et ces points-là nous paraissaient intéressants. Et que ça soit porté par une jeune fille, ça nous paraissait aussi très important.
Il est vrai que concernant les lauréats que vous avez choisis cette année, vous avez la parité. Bravo. Est-ce que l'originalité, c'est aussi un point important dans les projets qui vous sont soumis pour que vous les distinguiez, que ce soit quelque chose qui sort vraiment de l'ordinaire, qu'on ne retrouve pas ailleurs, qu'il y a quelque chose de très nouveau?
Alors, si je disais que ce n'était pas important, on ne comprendrait pas pourquoi nous avons distingué ces deux projets. Ça ne veut pas dire pour autant que des petits projets qui sont moins originaux ne sont pas intéressants. Et dans ceux qui ont participé, eh bien, il y en avait. Et peut-être qu'à l'occasion d'un autre prix, nous distinguerons des petits projets qui sont moins originaux, mais qui montrent que, et en particulier quand on est très jeune, un micro-projet, c'est un projet, c'est un engagement. Et c'est ça qui nous intéresse chez les jeunes qui sont présents.
Qu'est-ce que vous avez mis en avant quand vous avez défendu votre projet, Pauline? Vous avez insisté sur quoi, surtout pour convaincre le jury? Parce que c'était ça quand même, comment convaincre?
Eh bien, d'après mes souvenirs, ce que j'ai mis en avant, c'était le fait que nous sommes tous appelés. Nous sommes tous appelés à deux choses dans un premier temps, à être tous saints. Nous sommes tous appelés à grandir vers la sainteté. Et pour cela, nous sommes aussi tous appelés à une vocation. Donc à la vocation au mariage, au sacerdoce ministériel ou à la vie consacrée. Et donc c'est ce que j'ai mis en avant par le fait de montrer que toute personne a un but dans sa vie et toute personne est appelée à être sainte.
Et toute personne a un rôle à jouer dans la société aussi à travers cet engagement et ce sacerdoce, comme vous l'appelez vous-même. Autour de Julien Germain, maintenant, de nous présenter Merga, il a déjà un peu commencé. Donc le projet qui, vous avez lu le premier prix de la Chaire Jean-Rondin cette année, donc collectif, association que vous présidez, qui met en valeur, si je puis dire, les bons côtés de l'intelligence artificielle.
Absolument, puisqu'on est donc une association de secourisme qui développe notamment une application mobile qui est destinée au grand public, tout un chacun, formé ou pas aux gestes qui sauvent, et qui permet, vous le mentionnez, sur la base de l'intelligence artificielle, d'aider une personne témoin d'une urgence à porter secours. Alors je dirais que c'est un projet qui est beaucoup moins spirituel finalement, mais qui a vraiment vocation à assister sur le terrain les personnes qui sont face à une urgence. Et c'est un outil aussi de travail finalement pour nos services de secours, puisque on veut que cet outil puisse permettre de transmettre des informations directement aux services de secours publics pour leur permettre en fait de faciliter véritablement leur travail et de bénéficier d'informations très complètes avant même d'intervenir sur le terrain.
Pour être très précis, à quoi il ressemble cet outil?
Alors, c'est une application que vous téléchargez sur votre téléphone portable, absolument. Lorsque vous êtes confronté à une urgence, l'application vous pose des questions très simples sur ce qui se passe. Et grâce aux réponses que vous pouvez lui apporter, elle comprend véritablement la situation. Elle vous oriente vers le bon service à appeler, puisque je l'évoquais tout à l'heure, il y a beaucoup de numéros d'urgence, une grande complexité dans la chaîne de l'urgence. Elle vous explique une conduite à tenir, très simple, adaptée à la situation de la victime, adaptée à votre niveau de formation au geste de premier secours et adapté pourquoi pas aussi à l'endroit où vous vous trouvez, aux petites spécificités qu'on peut trouver. Et du même coup, les services de secours dans leur centre opérationnel reçoivent une alerte avec toutes les informations que l'application a pu récupérer et peuvent interagir avec vous.
Qui sont les membres de votre collectif? D'où sont-ils issus? Ce sont des étudiants? Ce sont des scientifiques? Ce sont des spécialistes de l'informatique et donc de l'intelligence artificielle?
Alors, à l'origine, on est une équipe étudiante. On est 3 étudiants à l'origine. On a été petit à petit rejoints par d'autres étudiants, 6 à provenir de l'Institut catholique de Toulouse, et les 6 qui ont donc présenté ce projet. Mais beaucoup plus largement, on est une équipe de 75 personnes, donc qui contient une très très grande diversité de profils. Effectivement, il y a des développeurs, il y a des secouristes, des profils un petit peu plus scientifiques, des médecins, etc., des consultants en gestion de projet, en stratégie, en responsabilité sociétale des organisations, des juristes également. Il y a une grande diversité au niveau de cette équipe et je dirais que c'est ce qui concourt à la rendre très vivante et à rendre l'engagement aussi très vivant, puisque finalement on apprend beaucoup au contact de ces personnes qui sont toutes mobilisées par intérêt pour la thématique et par désintérêt, je dirais au final, puisque ça reste un engagement associatif, et on s'apporte mutuellement beaucoup dans cette entité, c'est ce que je trouve enrichissant aussi.
Oui, il a fallu de temps pour développer une application comme celle-ci.
Je dirais qu'on n'a même pas fini. Aujourd'hui, on doit avoir développé à peu près 75% de l'outil, il nous reste encore quelques fonctionnalités à développer. On travaille sur le développement depuis 2022.
Donc testez,
aujourd'hui, effectivement, on teste, on travaille en relation avec plusieurs services de secours qui sont pilotes sur ce projet, je pense aux services de secours de Haute-Garonne, et qui nous aident à tester l'outil, effectivement, à vérifier que ça corresponde à leurs besoins sur le terrain, aux exigences métiers, etc., etc. Et l'objectif, c'est de parvenir assez vite à un déploiement opérationnel pour sauver le plus de vies possible.
Quand vous dites services de secours, ce sont les sapeurs-pompiers et le SAMU?
Sapeurs-pompiers et SAMU, essentiellement. Tout à fait.
Quels tests ont déjà eu lieu, en grandeur nature, et qu'est-ce que ça a donné?
Grandeur nature, je dirais qu'on est assez frileux sur les tests grandeur nature pour le moment. On attend d'être vraiment certain de la qualité des fonctionnalités. Donc il y a des tests purement techniques pour s'assurer que tout fonctionne comme il faut. Il y a des tests fonctionnels qui consistent à vérifier que, par exemple, notre algorithme ne se trompe pas. Et il y a des tests après métier, c'est-à-dire qu'on a les opérateurs des centres opérationnels des services de secours, mais aussi des bêta-testeurs grand public, entre les mains desquels on met l'application et on leur demande de nous faire des retours sur les fonctionnalités. Et grâce à ces 3 tests, on arrive à améliorer petit à petit l'outil. aussi, on a déjà eu des retours très concrets. Effectivement, l'étape suivante, c'est de la simulation ou des exercices en conditions réelles.
Alors là, on parle des professionnels, des services de secours, mais est-ce que, à terme, rêvons, ce serait que tout le monde, tout un chacun, le grand public, puisse avoir cette application sur son téléphone pour pouvoir agir en toutes circonstances lorsqu'on se trouve confronté à une urgence?
Bien sûr, c'est notre objectif. Alors, c'est un objectif très ambitieux, ça, je vous l'accorde.
Ah, j'ai bien dit que là, je suis dans le rêve.
Ah oui, bien sûr, tout à fait.
Vous rêvez aussi.
Mais absolument, il le faut. Il le faut, et donc, on trouve, j'allais dire, des petites solutions pour permettre de diffuser l'outil sans avoir à toucher la population entière. Donc, notre application permet, par exemple, aux services de secours, lorsque vous les appelez par téléphone, qu'ils vous envoient un lien par SMS qui redirige vers notre application. Et comme ça, ils peuvent, eux, commander à distance l'affichage de gestes qui sauvent. Ils peuvent demander des photos, des appels vidéo, etc. Donc on trouve ce genre de petites astuces qui nous permettent de toucher très largement le public et du même coup de venir quand même servir aussi l'intérêt de nos services de secours qui ont des activités opérationnelles particulièrement difficiles et complexes. Et grâce à ce genre d'outils, on les équipe de technologies assez innovantes.
Marie-Christine Monnier, alors là, le côté innovant là, du projet me paraît évident, mais qu'est-ce qui a retenu votre attention au-delà de cet aspect-là?
Vous l'avez écouté. Il a insisté sur l'engagement initial, l'idée et la multiplicité des compétences qui étaient nécessaires. Multiplicité des compétences, ça veut dire que c'est aussi de l'intergénérationnel. Parce que les spécialistes de l'AI qui ont 23 ans et qui sont diplômés de fac de droit, ça n'existe pas encore. Et donc, on a mélangé tout ça. Et le fait, en si peu d'années, en si peu de temps, d'avoir réussi à convaincre des spécialistes, aussi bien d'informatique, de communication, de métiers qui sauvent, c'est la meilleure preuve qu'avec une idée initiale, un engagement étudiant, on peut agir sur un problème sérieux qui touche la population.
Pauline Bocquien, je vais poser la question aussi évidemment à Julien Germain, qu'est-ce que ça change pour vous d'avoir été distingué par ce prix de la chaire Jean Rodin? D'abord, c'est valorisant évidemment, mais ça vous encourage bien sûr à poursuivre.
Tout à fait, c'est un grand honneur, merci beaucoup d'avoir pu gagner ce prix puisque ça nous conforte dans le fait que l'association a un vrai but qui est très important, qu'elle a besoin d'être soutenue et ça nous aide aussi dans le fait de faire parler de nous, de montrer que qui on est, qu'on est là, qu'on existe, et notre but.
Julien Germain.
En ce qui nous concerne, je dirais que c'était avant tout une candidature d'ordre sentimental, puisqu'on est très attaché à là d'où on vient. On est des étudiants à l'origine, on était trois, on a été rejoints petit à petit par des étudiants quand le projet n'était encore qu'embryonnaire. Et tous ces étudiants venaient de l'Institut catholique, donc finalement, cette candidature était l'occasion de nous faire connaître de l'Institut catholique qui a vu le projet naître en quelque sorte, en naître assez silencieusement. On a travaillé un petit peu de notre côté, mais pour nous, il y a avant tout cette reconnaissance et ce soutien un petit peu sentimental qui nous tient vraiment à cœur. C'est l'occasion aussi pour nous de voir que cette cause qui est la nôtre peut toucher une communauté universitaire, peut toucher une communauté relativement grand public, puisque non professionnelle du secours à personne, et c'est la preuve que notre cause parle à tout le monde et que ça peut être aussi l'une des incarnations finalement de la solidarité.
Oui, et puis ça montre aussi le bien fondé de votre engagement et des projets sur lesquels vous travaillez et au service desquels vous mettez votre énergie et votre intelligence d'ailleurs. Marie-Christine Monnoyer, bon, il y avait 5 projets, 2 ont été distingués. Les autres, vous pouvez peut-être dire un mot rapide sur les autres projets parce que moi, je pense qu'ils le méritent aussi.
Je suis contente que vous puissiez m'en donner l'occasion. Un des autres projets concernait l'association qui est assez connue à Toulouse, les Enfants du Mékong. Parce que cette association, elle a été largement soutenue par des personnalités fortes et des engagements personnels importants. Et il s'agissait d'être un point d'appui vis-à-vis des enfants du Mékong. Et puis, il y en a une autre qui nous a aussi interpellés, qui était celle qui s'appelle Pérou Amitié Solidarité. L'étudiante qui la présentait est en relation depuis longtemps avec cette association. Et cette association, nous la suivons déjà depuis plusieurs années parce que ses réalisations sur le terrain sont profondément liées au terrain. Ce sont les enfants du Pérou, ce sont les écoles péruviennes, ce sont des enfants qui sont situés dans des villages qui sont difficiles d'accès, etc. Donc ça, c'était vraiment un point qui nous tenait à cœur. Et puis l'autre candidat et l'autre candidate, eh bien, elle voulait parler des violences sexuelles et sexistes qui existent partout, même dans une université catholique. Et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, eh bien, elle est bien évidemment au cœur de nos préoccupations, parce qu'elles sont souvent, ces violences, elles ont des conséquences sur le très long terme, sur le développement potentiel et l'implication des personnes qui les ont subies.
Je crois qu'il n'y a pas un jour où l'actualité, ne, malheureusement, n'illustre pas le propos que vous venez de tenir.
Voilà. Donc, vous voyez, elles étaient toutes intéressantes.
Mais, c'est... Alors, ce projet, c'était Solidel.
C'était Solidel. Oui, je n'ai pas donné son nom, alors que pour les deux autres, je l'avais donné. Peut-être qu'on pourrait aussi demander à notre représentante du CRAV, Pauline, de nous dire, elle ne l'a pas dit, en quelle formation elle se trouve.
Merci beaucoup. Effectivement, je suis à l'Institut catholique de Toulouse en licence de philosophie.
Ah.
Depuis 3 ans maintenant.
Trois ans, donc vous dirigez vers l'enseignement de la philosophie, si je comprends bien. C'est votre souhait ou
alors,
c'est une autre voie?
Alors, la licence de philosophie était vraiment pour ma formation personnelle et le projet est vraiment rempli. J'ai beaucoup appris et beaucoup grandi grâce à cette licence, donc je remercie vraiment l'Institut catholique de Toulouse. Et après, j'ai pour but de partir en master de communication, justement à la suite de cet engagement qui m'a montré que la communication m'apportait beaucoup et que j'étais vraiment épanouie dans cela.
Oui, ça confirme aussi les gens dans la voie qui
veulent choisir. C'est pour ça que j'avais envie qu'elle dise qu'elle était, entre guillemets, philosophe.
Oui.
Et qu'elle deviendra...
En tout cas, elle a une philosophie de vie, comme on dit.
Voilà.
Mais écoutez, on arrive au terme de cette émission. Il me reste à vous remercier beaucoup, tous les trois, d'avoir été les invités de ce numéro et de nous avoir présenté les projets récompensés cette année par le prix de la chaire Jean Rodin. Vous pouvez en savoir plus sur Emerga en vous connectant à l'adresse www.emerga.fr et sur le CRAV en consultant le site www.crave-vocation.org. Cette émission était animée par Éric Dupri, à la technique Christophe Aubry. Très bonne journée à tous, bon week-end et à la semaine prochaine.